Ce soir, l'étude ne sera pas très, très longue. On va parler simplement de Augustin, entre guillemets, le Saint Augustin ou le Père de l'Église Augustin. Donc, et puis surtout, je vais lire, j'ai les notes de ce cours d'histoire et puis j'ai aussi quelques informations que j'ai prises dans une encyclopédie là. Donc, avec la décadence romaine, Augustin, il avait, comme la plupart des élèves, une femme en dehors du mariage. Donc, c'était bien comme nous aujourd'hui aussi, n'est-ce pas? Comme notre époque. Alors, il a un fils qui est né en 372. Puis, en 374, il devint manichéen. Donc, on a parlé de ce groupe déjà dans le passé, mais je peux lire un petit peu aussi dans cette encyclopédie. Manichéisme, doctrine des manichéens fondée sur la coexistence des deux principes opposés du bien et du mal, comme si le bien et le mal étaient tous les deux éternels, ce qui n'est pas la vérité. Dieu est éternel et le mal est venu quand le diable a quitté sa place que Dieu lui avait accordée. Il s'est devenu l'ennemi de Dieu et c'est lui qui a importé le mal sur notre planète quand il a tenté Ève et Adam et Ève ont péché. Donc il dit manichéisme, manes, s'identifier au paraclète, c'est-à-dire le Saint-Esprit, et comme tel devint fondateur de religion entre guillemets révélée. Il poussait à l'extrême le dualisme marcionite, donc la lutte éternelle du principe bon et du principe mauvais. L'homme actuel a été créé par le Dieu mauvais. L'homme actuel a été créé par le Dieu mauvais. Il ne peut être affranchi que par la connaissance de la vraie science. Donc ça mélange un peu le gnosticisme, le marcionisme et d'autres choses. Le manichéisme se répandit en Perse, en Inde, en Chine, puis en Afrique, en Italie du Sud et en Espagne. Et puis souvent on dit que les cathares étaient manichéens ou au moins on les accusait d'être manichéens. Okay? Donc ils n'étaient pas. C'est vrai qu'ils croyaient dans le bien et le mal, comme nous aussi on croit dans le bien et le mal. Mais on ne croit pas dans leur égalité ni dans leur existence éternelle. C'est le bien qui correspond à Dieu et Dieu est éternel. Mais le mal, c'est l'absence de bien ou l'écart du bien et donc n'a pas une existence indépendante de toute façon. Donc, Augustin s'est converti à cette doctrine-là. C'est curieux. Ça devait être quelque chose d'intellectuel qu'il a attiré ou quelque chose, une attirance intellectuelle. Mais, ayant entendu la prédication de l'évêque Ambroise de Milan, il a entendu un voisin, peut-être dans un jardin ou au travail d'un mur, je ne sais pas, qui a dit « Prends et lis ». Et donc, il a lu dans la Bible et il a accepté Jésus-Christ comme son sauveur. Donc, il dit ici dans le texte de sa mère qui avait prié pour sa conversion pendant des années, mourut juste après son baptême. Donc, c'est le baptême du croyant. Il s'est converti, puis il s'est fait baptiser. Il devient ancienne dans l'Église en 391 et l'évêque de Hippone plus tard en Afrique, après Afrique du Nord. Après la prise de Rome par les barbares en 410, il a écrit un livre qui s'appelle « La cité de Dieu » pour répondre aux accusations qui se levaient. Alors les païens disaient que la prise de Rome avait eu lieu parce que on avait abandonné les anciens dieux, les dieux anciens. Donc, on va voir les choses que Augustin enseignait, et puis on va commenter de temps en temps, parce que Augustin, certaines choses que Augustin enseignait sont devenues la norme pour les catholiques. Et d'autres choses qu'il a enseignées étaient rejetées par l'Église catholique. Et certaines choses qui étaient rejetées par l'Église catholique étaient réadoptées par les protestants. Donc, les écrits d'Augustin sont très importants pour l'Église catholique romaine, pour leur histoire, pour leur base. Et quelque part aussi, pas directement, mais par l'intermédiaire des théologiens, il est aussi très important au protestantisme. Pas pour dire qu'il dit la vérité, mais simplement pour dire qu'il a influencé, grâce à lui ou à cause de lui, que les protestants sont ce que sont les protestants. Donc, premièrement, il enseigne qu'il faut interpréter un verset de la Bible par la Bible entière. C'est bien. Hein? Faut pas arracher un verset de son contexte. Donc, déjà, dans son propre contexte du paragraphe du livre, et puis, si on sait que dans telle autre partie de la Bible, il y a un enseignement qui est solide et fixe, et puis on lit cela ici dans son contexte, et ça semble dire quelque chose de contradictoire, on sait que notre compréhension de ce nouveau texte-là, biblique, eh bien, il y a quelque chose qui va pas. Parce que la Bible ne peut pas se contredire, donc il faut comprendre mieux. Et c'est pour ça qu'il faut interpréter un verset de la Bible à la lumière de toute la Bible. Second, l'homme est lié au péché et ne peut être sauvé que par la grâce et par la foi. On accepte ça aussi, c'est vrai. On est lié, on est pécheur. Et c'est pour ça quand en Jean chapitre 2, Jean dit... Et si quelqu'un a péché, on a l'avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Parce que ça nous arrive à pécher. On est lié au péché. Et bon, pour le salut, on peut faire tout ce qu'on veut, des œuvres et tout ça, mais les bonnes choses qu'on fait, ça ne nous gagne aucun mérite. Parce que ce qu'on peut faire, on devrait faire. Et quand on ne fait pas ce qu'on peut faire, ça devient une faute. Donc, il a raison. Troisième chose, l'Église visible est le corps de Christ qui a le droit de donner les sacrements et possède le vrai credo. Les catholiques romains le considèrent comme le père de la hiérarchie romaine. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment juste de dire ça, parce qu'il y avait déjà une hiérarchie avant même Constantin, donc bien avant Augustin. Mais peut-être il a donné une raison d'être de cette hiérarchie. Peut-être c'est pour ça qu'on a dit ça. Par contre, l'Église majuscule, visible, est le corps de Christ. Là, on commence à... Ça gêne un petit peu. Parce qu'il est vrai qu'une Église visible, donc c'est pas le bâtiment, c'est qui? C'est les croyants. Donc, les croyants font une assemblée locale. Et donc, c'est un corps de Christ. Mais ce n'est pas le corps de Christ. C'est une petite manifestation du corps de Christ, le corps céleste du Christ, cette chose qu'on appelle le corps de Christ, ou l'Église universelle, qui est l'union de tout ce qui croit en Jésus-Christ, l'union de ces gens à Jésus-Christ lui-même. Donc, de dire que l'Église visible est le corps de Christ, ça diminue les choses célestes à être uniquement terrestres. Alors, il parle droit de donner les sacrements. Que l'Église locale a le droit de donner les sacrements. Bon, on a parlé de ça dans un autre sujet tout à l'heure. Est-ce que c'est l'Église qui a le droit à baptiser? Ou est-ce que c'est le croyant qui a la possibilité de baptiser un nouveau croyant. Ah, c'est ça, n'est-ce pas? Ou est-ce que c'est que les responsables de l'Église qui peuvent distribuer les aliments dans le repas du Seigneur, ou est-ce que ça peut être d'autres personnes de l'Église? Donc, lui, évidemment, il dit non. Il dit non. Mais il n'y a pas de base biblique pour vraiment répondre à cette question. Donc, puisque la Bible n'en parle pas, il ne faut pas prendre une décision, une position là-dessus. Il enseignait la Trinité. Il avait raison. Baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est la Trinité. Il enseignait la nature du mal. La nature du mal et l'absence du bien. Je pense qu'il a raison. C'est comme le chaleur et le froid. Le froid est mesuré par l'absence de chaleur. Le froid n'a pas d'existence en soi. On dit, j'ai froid. Tu viens de mettre le manteau. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas chaud. Donc, c'est la même chose. Dieu, il est le bien. Et autant qu'on s'écarte du bien, on s'enfonce dans le mal. Mais c'est un vis-à-vis du bien. Et il n'a pas d'existence en soi. Il enseignait que les anges se trouvent dans deux camps, les bons et les déchus, et qu'il n'y a pas de possibilité de passer d'un état à l'autre. Et encore, il a raison. Il y a des anges saints et il y a des anges déchus, des anges démoniaques, donc il n'y a pas uniquement les démons, il y a toute une hiérarchie, comme auparavant, avant que les anges ont péché. Dieu avait créé les anges dans un genre de hiérarchie. Et quand ils se sont rebellés contre Dieu, ils ont gardé leur hiérarchie, mais c'est simplement dans les ténèbres maintenant. Et puis, il est vrai aussi que les anges qui n'étaient pas créés à l'image de Dieu, les anges étaient les serviteurs de Dieu, mais ils n'étaient pas créés à l'image de Dieu. Il n'y a que l'homme créé à l'image de Dieu. Et donc, les anges n'ont pas la capacité d'être rachetés, de changer le camp. Le choix était fait il y a longtemps. Ils sont confirmés dans le mal ou confirmés dans le bien. Nous, par contre, nous pouvons nous repentir du mal pour s'attacher à Dieu par Jésus-Christ, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et ça nous donne une possibilité que Dieu puisse envoyer son Fils mourir pour nos péchés, pour nous racheter. Alors, Augustin enseignait la dépravité totale de l'homme naturel. Et ça, c'est un point que Calvin a repiqué. Il a peut-être repiqué les autres choses aussi, mais les autres choses sont tout à fait raisonnable et biblique, autrement que le point 3. Mais la dépravité totale de l'homme, donc dans l'enseignement calviniste, c'est l'idée que l'homme est si dégradé qu'il ne peut pas exercer la foi en Jésus-Christ. Qu'il faut donc, avant que l'on peut croire en Jésus-Christ, il faut une nouvelle naissance qui donne la capacité à croire en Jésus-Christ. Et donc, cette nouvelle naissance peut avoir lieu à quelconque moment dans la vie, donc quand Dieu le veut, pour que la personne puisse, à un moment donné, croire en Jésus-Christ. Ça, c'est faux. Ça, c'est tordu. Bon, j'ai expliqué le calvinisme, là. Je n'ai pas expliqué l'augustinisme. Numéro 8. Dieu permet le mal afin qu'un bien supérieur puisse venir. Donc, je pense que c'est assez correct. Hein? Dieu permet le mal. Dieu lui-même ne fait jamais le mal. Il n'envoie pas le mal, mais il retire la bénédiction. Il retire la protection. C'est quelqu'un, comme quelqu'un a dit, il y a 10 millions de façons de mourir, 10 millions de raisons que je devrais mourir aujourd'hui. Et pourtant, je suis encore vivant. Donc, quand Dieu enlève une protection, une ouverture pour que le mal puisse atteindre la personne ou la situation. Donc, il a raison de dire que Dieu permet le mal. Et il dit aussi que Dieu, enfin, utilise ce qu'il a permis pour que un bien supérieur puisse arriver. Donc, à l'ultime, c'est que Dieu va régner sur la planète. Donc, Dieu étant souverain, il gère. Mais je pense que dans nos discussions et nos explications de l'Évangile, il faut quand même insister que Dieu ne fait pas le mal. Quand on peut dire que Dieu fait le mal, on dit Dieu c'est le diable. Et c'est pas vrai ça. Il enseignait que l'enfer éternel existe pour les condamnés. Bon, c'est ça, la Bible le dit. Il enseignait que les hommes sont choisis par Dieu pour l'enfer. Non. Donc vous pouvez dire à haute voix. Mais ça, c'est ce que Augustin a enseigné et c'est ça que Calvin a repiqué. La doctrine que Dieu, on va voir, il y a un autre mot tout à l'heure, Dieu a choisi les hommes pour l'enfer. Et cela se base aussi sur un autre de ses enseignements, que l'expiation est limitée. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour mourir, non pas pour les péchés du monde entier, comme nous dit 1 Jean 2:2, mais seulement pour les péchés des brebis. Donc, quand on lit une phrase comme « Christ est mort pour les péchés du monde entier », on dit « le monde entier des brebis ». Donc, on ajoute une petite phrase pour limiter la signification du texte biblique. Donc, disons, je jette une mot dans l'air comme ça, que Dieu a déterminé, d'après Augustin et en spécifique Calvin, avant la création du monde, Dieu a décidé qu'il allait sauver 3 603 000 personnes. Et donc, l'expiation se limite à 3 603 000 personnes. Ça, c'est l'idée. Mais qu'est-ce que Dieu fait avec le reste? Ben, il les a destinés à l'enfer. Et ça s'appelle l'élection double, pour le ciel et pour l'enfer. Donc, Dieu a prédestiné toute personne à son destin, soit au ciel, soit en enfer. Et Calvin a repiqué cette pensée aussi. Parce que ça va ensemble. Si on a une chose, il faut contrebalancer avec l'autre chose. Augustin enseignait que l'homme est responsable devant Dieu pour ses œuvres. C'est vrai. Hein? Il enseignait que Dieu est souverain. Et ça, c'est vrai aussi. Dieu est le maître de l'univers. Il est toujours en haut. Il est toujours, comme on a dit tout à l'heure, il permet le mal, mais il ne l'envoie pas. Pourquoi il permet le mal? Il permet le mal parce que le péché est entré dans le monde. Il aurait pu tout simplement tuer Adam et Ève et puis recommencer. Ben non, il pouvait pas. Pourquoi il pouvait pas? Parce qu'il a créé Adam et Ève en son propre image. Et il ne pouvait pas les tuer. Et pourtant, ils allaient mourir. Mais mourir de leur propre faute, mais pas parce que Dieu les a tués. Et d'ailleurs, ils n'ont pas péché, comme dans cette philosophie d'Augustin et de Calvin. Dieu n'a pas poussé Adam à pécher pour qu'il puisse par la suite le pardonner. Mais Adam s'est révélé dans son esprit et il a fait exprès de d'agir contre la volonté de Dieu. Il a péché de son propre gré et non pas parce que Dieu l'a poussé à la faire. Donc, il enseignait la prédestination, donc une chose aussi que Calvin a repiquée. Prédestination, ça va un peu avec toute l'idée là, c'est qu'on est déjà prédestiné à l'enfer ou au ciel et que l'expiation se limite uniquement à ceux qui sont destinés au ciel et les restes étaient prédestinés ou choisis pour aller en enfer. Alors, d'après les notes du cours, Augustin enseigne que le baptême enlève le péché originel. En voyant que Augustin s'était converti à environ 50 ans, peut-être 60 ans après le concile de Nicée. Donc, je vous ai dit déjà que Constantin croyait que le baptême enlevait le péché originel. Donc, il attendait la fin de sa vie pour se faire baptiser. Donc, c'était déjà une pensée courante à l'époque. Et Augustin entre dans cette église d'État. Donc, ça ne me surprend pas qu'il aurait enseigné cette idée. C'est dommage, mais ça ne m'étonne pas que s'il avait enseigné cette doctrine, qui est devenue par la suite la doctrine de l'Église catholique romaine, hein, que le baptême enlève le péché originel. Ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas vrai, ça. Okay? Il enseignait aussi, s'il n'y a pas de persévérance, on peut perdre le salut. Alors, je ne suis pas sûr, je lis les notes là, mais je ne sais pas, je n'ai pas lu les documents d'Augustin, mais ça semble quand même en contradiction avec son idée même que si quelqu'un est prédestiné au ciel parce qu'il fait partie des élus pour lesquels Christ est mort uniquement pour ces gens-là, qu'il puisse perdre son salut. Mais la chose, c'est qu'il n'y a personne qui a entièrement logique. Donc, il est possible qu'on enseigne une chose qui contredit le reste de son système.
Et puis, si Dieu ne fait pas le mal, comment il peut envoyer des hommes alors à l'enfer?
Tu veux la réponse? Qui es-tu de parler comme ça contre Dieu? C'est ça la réponse. C'est drôle, hein? Alors, il a fortifié la doctrine du purgatoire, de la régénération par le baptême. Donc, quand on dit le baptême enlève le péché originel, ça c'est la régénération par le baptême. Et la réception de la grâce par les sacrements. Donc, le purgatoire était une doctrine en train de se développer. Évidemment, le vrai purgatoire. Donc, purgatoire, c'est le lieu où est purgé le péché. Alors, où est-ce que le péché est purgé? Je n'entends pas. Non, le péché est purgé à Calvaire. Jésus a purgé le péché. Le péché devrait plus exister. Enfin, nos punitions de nos péchés. Donc, quand on parle d'un autre endroit pour enlever le péché, le purgatoire, on repêche ça quelque part autre. Et je ne sais pas d'où est venue cette doctrine, mais on trouve quelque part dans les livres de Maccabée, je pense, une référence comme ça. Donc, peut-être c'est de là, je ne sais pas, mais ce n'est pas du tout une doctrine biblique de parler du purgatoire, autrement de parler de Jésus sur la croix de Calvaire. Ok? Après, donc, la régénération par le baptême. Donc, régénération veut dire la nouvelle naissance par le baptême. Donc, ça, c'est une chose qui est absolument faux. Et l'idée de la grâce par les sacrements. Donc, Bon, les catholiques ont développé le système des sacrements à travers les siècles. Je ne sais plus s'il y a 7 ou 9 sacrements dans l'Église catholique aujourd'hui. Mais les protestants ont quand même suivi en partie ce principe que nous pouvons recevoir de la grâce à travers, entre guillemets, nos sacrements protestants. Par exemple, par le repas du Seigneur, qu'on reçoit certaines grâces de la part de Dieu. Et en fait, c'est faux aussi. Le repas du Seigneur est un mémorial. C'est une chose qui doit nous rappeler. Dans notre esprit, nous devons réfléchir à propos d'un événement historique. Alors si on reçoit des bénédictions conséquentes à cette réflexion, tant mieux. Mais ce n'est pas les aliments ou éléments du repas, du repas du Seigneur, qui donnent une grâce magique ou spirituelle à la personne qui participe. Je ne vais pas élaborer ça. Donc, dernière chose, c'est que Augustin croyait que le millénium avait lieu entre l'incarnation et le retour de Jésus-Christ. Et il a communiqué cette idée dans son livre. Est-ce que j'ai donné le nom de ce livre tout à l'heure? La Cité de Dieu. Hein? Donc, jusqu'à Augustin, les chrétiens croyaient dans le millénium. Et on appelait ça le chiléisme. Je ne sais plus exactement le mot, mais chiléisme, c'est basé sur le grec pour dire 1000 ans. Comme dire, pour nous, millénium, c'est le latin, 1000 ans, millénium, 1000 années. Et les chrétiens, dans l'Empire, les chrétiens surtout étaient dans l'Empire romain à cette époque-là, et on voyait la culture tomber en morceaux. On voyait les barbares attaquer à Rome. Et on appelait Rome la ville éternelle. Et donc on ne voyait pas, on ne comprenait pas, Jésus doit revenir et il ne vient pas. Et donc enfin, Augustin a développé l'idée que il ne va pas revenir. Il ne va pas revenir établir un royaume. On est déjà dans le royaume. Depuis qu'il est venu et jusqu'à son retour, c'est l'Église qui règne à sa place. Et donc, l'Église catholique a développé ça pour dire que oui, c'est le pape, chef de l'Église, qui règne sur tout l'empire du christianisme, etc. Et donc, c'est dommage parce que aussi ça a été adopté quand on parle des Églises issues de la Réforme. Même là, à l'époque de la Réforme, du fait qu'on croyait que l'Église du Moyen-Âge était le règne du Christ, on n'a pas développé l'idée de doctrine concernant le retour de Jésus. Donc, quand il y a eu la Réforme, les Églises réformées sont restées 100 millénium, on dit à 1000, 100 millénium. Mais voyez bien, au moins il disait comme ça, que le pape était l'antichrist. Donc on était dans la tribulation peut-être, et Christ allait venir pour terminer toute la planète et tout ça. Il n'y avait que quelques illuminés qui croyaient en millénium, et eux ils ont essayé d'établir leur propre royaume. Et donc ils ont souffert de beaucoup de misère avant de mourir de leur crime. Donc c'est dommage, parce que la Bible enseigne le millénium. Les croyants du premier 2 siècles, 3 siècles croyaient que le millénium allait venir, c'est-à-dire que Jésus allait revenir établir son royaume. Et puis Augustin a expliqué que non, jamais Jésus ne va pas venir faire une telle chose, que nous sommes déjà dans le royaume. Et ça dure même aujourd'hui chez Donc, la doctrine catholique et la doctrine protestante, la plupart des protestants, ne comprennent pas qu'un jour Jésus va revenir établir un royaume. Par contre, il y a d'autres protestants qui croient ça. Tant mieux, hein, c'est bien. Voilà, donc on arrête là. Attends, j'allais vous lire ce qui était dans cette journal, cette encyclopédie à propos d'Augustin. Mais pas tout, je vais simplement dire, il a écrit quelques livres en tant, il était l'évêque de Hippone. Donc, il s'est converti 387 et 396, il est évêque. C'est rapide, monter l'échelle là. Outre ses confessions, ses principaux ouvrages sont La Cité de Dieu, une œuvre apologétique, et que je viens de parler de ce livre-là, c'est celui qui a balayé l'idée du royaume de Jésus, et des écrits polémiques dans lesquels il défend la foi catholique contre les manichéens, les donatistes, les pélagiens et les ariens. Toute la pensée de Saint Augustin est centrée sur deux problèmes essentiels, Dieu et le destin de l'homme, perdu par le péché, sauvé par la grâce. L'influence de Saint Augustin a dominé la théologie occidentale jusqu'à Saint Thomas d'Aquin. Elle paraît à nouveau, mais transformée, chez Luther et chez les jansénistes et évidemment chez Calvin. Bon, ça c'est pas écrit là, mais il aurait dû le dire. Voilà. Ok, on va arrêter là.